Or, ce sont justement ces substances toxiques que nous voulons utiliser. Pour ne pas gaver inutilement le foie de fébrifuges et autres friandises, le raccourci par le rectum est donc tout indiqué. Une idée de génie, notamment pour les enfants et les personnes âgées. Chapitre 4. Les particules alimentaires. La phase la plus importante de la digestion humaine se déroule dans l'intestin grêle, où sont réunies à la fois la plus grande surface digestive et les plus petites particules de nourriture. C'est là que sont prises des décisions fondamentales. Est-ce que je supporte le lactose? Qu'est-ce qu'une alimentation saine? Quels sont les aliments qui déclenchent une réaction allergique? Lors de cette étape, nos enzymes digestives agissent comme de minuscules paires de ciseaux qui découpent la nourriture en confettis jusqu'à trouver le plus petit dénominateur commun avec les cellules de notre corps. La nature, maligne, a en effet doté tout ce qui vit des mêmes matériaux constitutifs. Molécules de sucre, acides aminés et lipides. Et tout ce que nous mangeons provient d'organismes vivants, puisque d'un point de vue biologique, le pommier, comme la vache, font partie de cette catégorie. Les molécules de sucre ont la capacité de former ensemble des chaînes complexes et perdent alors leur goût sucré. Ce sont les glucides que l'on trouve par exemple dans des aliments comme le pain, les pâtes ou le riz. Quand vous mangez une tranche de pain de mie, une fois accompli le travail de découpage des enzymes, vous obtenez ceci. La même quantité de molécules de sucre que si vous aviez avalé quelques cuillerées de sucre en poudre. La seule différence, c'est que le sucre en poudre ne demande pas de traitement enzymatique. Quand il arrive dans l'intestin grêle, les fragments qui le composent sont déjà si petits qu'il peut être aussitôt assimilé dans le sang. Son ingestion en grande quantité sucre donc notre sang pendant un petit moment. Il ne faut pas beaucoup de temps aux enzymes pour venir à bout des glucides qui entrent dans la composition d'une tranche de pain demi-blanc. Quand il s'agit de pain complet, en revanche, la digestion est plus lente. Le pain complet renferme des glucides particulièrement complexes qui doivent être décomposés progressivement. À ce titre, il doit plutôt être considéré comme un dépôt de glucides bien utile que comme une orgie de sucre. Quand on lui fournit d'un seul coup une grosse dose de sucre, le corps doit d'ailleurs réagir de manière excessive afin de rétablir l'équilibre général. Il libère alors de grandes quantités d'hormones, principalement de l'insuline. Résultat ? Une fois dissipés les effets du commando spécial, la fatigue s'installe en un rien de temps. À l'inverse, quand le sucre n'est pas assimilé trop rapidement, il constitue une matière première essentielle. Nous l'utilisons alors comme bois de chauffage pour nos cellules ou comme matériau de construction pour créer nos propres structures glucidiques. Voilà comment nous coiffons nos cellules intestinales de bois de serre avec le glycocalyx ainsi constitué. Il n'empêche, notre corps aime tout ce qui est bien sucré, car cela lui évite du travail. Comme les protéines chaudes, ce sucre est assimilé plus rapidement et peut être converti tout aussi vite en énergie. Cet apport énergétique rondement mené est alors récompensé par le cerveau qui envoie sa dose de sentiments positifs. Oui, mais voilà, il y a un piège. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été confrontés à une telle surabondance de sucre. Dans les supermarchés américains, le sucre entre dans la composition d'environ 80% des produits proposés. D'un point de vue évolutif, on peut dire que notre corps vient juste de découvrir le placard où maman cache bonbons et friandises et qu'il se goinfre sans se douter de rien. Prochaine étape, maux de ventre et état comateux sur le canapé. Nous le savons, abuser de sucrerie, c'est mal. Mais nous ne pouvons quand même pas en vouloir à notre instinct de se servir copieusement. Nous mangeons trop de sucre, qu'à cela ne tienne. Nous le stockons tout simplement pour des temps plus difficiles. Il faut dire que c'est assez pratique. Pour le stockage, il y a deux options. Soit nous retransformons le sucre en glucides complexes entreposés dans le foie, c'est le glycogène, soit nous le transformons en graisse stockée dans les tissus adipeux. Le sucre est la seule substance que notre corps soit capable d'utiliser pour produire de la graisse sans trop d'efforts. il suffit d'un petit jogging pour épuiser les réserves de glycogène, ce qui correspond à peu près au moment où nous nous disons « Je commence à fatiguer là ». Quand on veut brûler des graisses, les nutritionnistes conseillent donc de faire au moins une heure de sport. Car le corps ne se met à puiser dans les vraies réserves qu'après la première chute de performance. Nous avons peut-être du mal à accepter que les poignées d'amour ne fondent pas tout de suite, mais notre corps, lui, est ravi. À l'instar des cellules qui le composent, il vénère le gras. De toutes les particules alimentaires, les graisses sont les plus efficaces et les plus précieuses. Grâce à leurs atomes liés de manière ingénieuse, les lipides sont capables de concentrer 2 fois plus d'énergie par gramme que les glucides ou les protéines. Grâce à eux, nous constituons une enveloppe autour de nos nerfs, un peu comme une gaine en plastique recouvre un câble électrique. Et c'est cette gaine qui permet à nos pensées de circuler à la vitesse de l'éclair. Les graisses servent aussi de base à quelques-unes des hormones fondamentales de notre corps et, enfin, chacune de nos cellules est enveloppée d'une membrane graisseuse. Un dispositif aussi précieux est évidemment protégé. Il n'est pas question d'y toucher dès le premier petit sprint venu. En cas de famine, et les derniers millénaires en ont vu beaucoup, chaque gramme de graisse constituera une formidable assurance-vie. Les lipides occupent aussi une place à part dans notre intestin grêle. Contrairement aux autres nutriments, ils ne peuvent pas être tout simplement assimilés dans le sang. Ils ne sont pas solubles dans l'eau. Ils boucheraient aussitôt les minuscules vaisseaux sanguins des villosités intestinales et, dans les veines plus larges, ils flotteraient à la surface comme l'huile d'olive dans l'eau des pâtes. L'assimilation des lipides emprunte donc un autre chemin, notre système lymphatique. Les vaisseaux lymphatiques sont aux vaisseaux sanguins ce que Robin est à Batman. Chaque vaisseau sanguin, même la plus petite veine de l'intestin grêle, est escorté d'un vaisseau lymphatique. Tandis que les vaisseaux sanguins rouges et rebondis acheminent héroïquement les nutriments vers nos tissus, les vaisseaux lymphatiques minces et blanchâtres vont y chercher du liquide, la lymphe, et transportent ainsi un peu partout les cellules immunitaires qu'elle contient. Les vaisseaux lymphatiques peuvent nous paraître un peu malingres. C'est que leurs parois, à l'inverse de celles des vaisseaux sanguins, ne sont pas pourvues de gros muscles. Le plus souvent, les vaisseaux lymphatiques se contentent d'utiliser la pesanteur. Résultat, le matin, au réveil, nous avons les yeux gonflés. En position allongée, la pesanteur ne peut en effet pas faire grand-chose. Et même si les petits vaisseaux lymphatiques de notre visage ont la gentillesse d'ouvrir leurs portes, il faut d'abord que nous nous levions pour que le liquide transporté jusqu'ici pendant la nuit puisse à nouveau s'écouler vers le bas. Et après une longue promenade, si nos cuisses ne sont pas gorgées de liquide, c'est parce qu'à chaque pas, les muscles des jambes font pression sur les vaisseaux lymphatiques, ce qui fait remonter la lymphe. En général, la lymphe fait plutôt partie des mauviettes mal considérées, sauf dans l'intestin grêle, où elle occupe enfin le devant de la scène. Pour pouvoir recueillir toutes les graisses digérées sans risquer de se boucher, tous les vaisseaux lymphatiques convergent vers un gros vaisseau. Ce gros vaisseau, c'est le conduit thoracique. Son nom passe-partout est trompeur. Plutôt que « conduit », il aurait été plus juste de l'appeler « maître de bonne conduite », car il suffit de l'observer pour comprendre pourquoi les bonnes graisses sont bonnes et les mauvaises, mauvaises. Suivez le guide. Les lipides sont collectés dans les vaisseaux lymphatiques, puis regroupés dans le conduit thoracique. Celui-ci remonte le long de la colonne vertébrale, puis décrit un arc de cercle au niveau du cou et débouche, paf, en plein dans le cœur. C'est là qu'afflue tout le liquide collecté, qu'il provienne des jambes, des paupières ou de l'intestin. Les graisses, qu'il s'agisse de l'huile d'olive la plus noble ou de l'huile de friture la plus rance, sont donc déversées directement dans le cœur. Contrairement à tout ce que nous digérons d'autre, elles ne font pas de détour préalable par le foie. Pour que les graisses nocives et dangereuses soient neutralisées, il faut d'abord que le cœur pompe dans le corps tout ce qui lui a été livré et que les gouttelettes de graisse atterrissent par hasard dans un vaisseau sanguin du foie. Comme il y a beaucoup de sang dans le foie, la probabilité d'une telle rencontre est élevée. Mais avant cela, le cœur et les vaisseaux sont exposés sans protection à ce que McDonald's & Co. auront pu acheter à bas prix. Si les mauvaises graisses peuvent avoir des effets néfastes, les bonnes graisses, elles, sont capables de faire des miracles. Dépenser quelques euros de plus pour s'offrir une bouteille de véritable huile d'olive pressée à froid, vierge extra, c'est donner à son morceau de baguette l'occasion de barboter dans un bain bienfaisant pour le cœur et les vaisseaux. De nombreuses études suggèrent que l'huile d'olive pourrait protéger de l'artériosclérose, du stress cellulaire, de la maladie d'Alzheimer et des maladies oculaires, comme la dégénérescence maculaire. En outre, des effets bénéfiques dans les pathologies inflammatoires telles que l'arthrite rhumatismale ou encore dans la prévention de certains types de cancers ont été mis en évidence. Et ce n'est pas tout, que les ennemis du gras ouvrent grand leurs oreilles. L'huile d'olive peut aussi déclarer la guerre à ces vilaines poignées d'amour qui nous chagrinent. Elle bloque en effet dans les tissus adipeux l'acide gras synthase, une enzyme qui a un petit faible pour les excédents de glucides, à partir desquels elle fabrique de la graisse. Et puis, nous ne sommes pas les seuls à profiter de l'huile d'olive. Les bonnes bactéries intestinales apprécient elles aussi ses bienfaits. Pour 1 ou 2 euros de plus, vous avez une bonne huile d'olive qui n'est ni grasse ni rance au goût, mais verte et fruitée, et qui, quand on l'avale, laisse parfois sur la langue une sensation un peu râpeuse due au tanin qu'elle contient. Pour la dégustation, il ne vous reste plus qu'à étudier les différents labels de qualité et à trouver la bonne bouteille. Mais réfrénons tout de suite les plus ailés. N'allez pas verser une grosse cuillerée d'huile d'olive vierge extra dans la poêle, car la chaleur a des effets dévastateurs sur elle. Un bon coup de chaud, oui, pour les steaks et les œufs, mais pas pour les huiles nobles, qui peuvent alors subir des modifications chimiques. Pour faire revenir les aliments, mieux vaut utiliser des huiles spécialement recommandées pour la cuisson, ou des graisses solides, comme le beurre ou la graisse de coco. Même si celles-ci regorgent de ces acides gras saturés qu'on a tant récriés, elles sont plus stables quand il s'agit de passer à la casserole. Les huiles nobles ne sont pas seulement sensibles à la chaleur. Elles ont aussi tendance à capter les radicaux libres en présence dans l'air. Et ces radicaux libres font pas mal de dégâts dans notre corps, parce qu'en réalité, ils n'aiment pas tant que ça leur liberté et préfèrent se fixer définitivement. Ils s'accrochent alors à tout ce qu'ils trouvent, aux vaisseaux sanguins, à la peau du visage, aux cellules nerveuses, et engendrent des irritations vasculaires, un vieillissement cutané ou des maladies nerveuses. S'ils veulent faire corps avec notre huile, ma foi, c'est parfait. Mais ils sont priés de le faire dans notre tube digestif et pas dans la cuisine. Après utilisation, le mieux est donc de bien refermer la bouteille et de la stocker au réfrigérateur. Les graisses animales qu'on trouve dans la viande, le lait ou les œufs contiennent bien plus d'acide arachidonique que les huiles végétales. Or, l'acide arachidonique sert de base à notre corps pour produire des messagers chimiques médiateurs de la douleur. Des huiles végétales, telles que l'huile de colza, de lin ou de chanvre, contiennent quant à elles plus d'acide alpha-linolénique aux propriétés anti-inflammatoires. Même chose pour l'huile d'olive qui contient une substance dont l'effet est similaire, l'oléocanthal. Ces graisses agissent comme l'ibuprofène ou l'aspirine, mais à une échelle bien moindre. Si elles ne sont pas efficaces contre des maux de tête graves, une utilisation régulière peut cependant s'avérer bénéfique en cas de maladie inflammatoire, de migraines fréquentes ou de douleurs menstruelles. Pour lutter contre la douleur, il suffit parfois de veiller à consommer plus de graisse végétale qu'animale. L'huile d'olive n'est pas un remède miracle pour autant. Son prétendu effet bénéfique pour la peau et les cheveux est contestable et contesté. Des études dermatologiques ont ainsi montré que l'huile d'olive pure pouvait être légèrement irritante pour l'épiderme et qu'après un soin des cheveux à l'huile, le rinçage nécessaire était tel qu'il annulait l'effet bénéfique du traitement. Trop de graisse, ce n'est pas bon pour notre corps. Qu'il s'agisse de bonne ou de mauvaise graisse, trop, c'est trop. Et nos capacités d'assimilation sont débordées. Le résultat est comparable à ce qui se passe quand, au lieu d'étaler une noisette de crème sur le visage, on tartine la moitié du pot. Selon les nutritionnistes, les lipides ne devraient couvrir au maximum que 30% de l'apport énergétique quotidien. En moyenne, cela équivaut à 55-66 grammes par jour, la dose pouvant être supérieure pour les plus grands et les plus sportifs d'entre nous. Inversement, si vous ne dépassez pas tout le monde d'une tête et que votre activité sportive se résume à appuyer sur le bouton de l'ascenseur, mieux vaut rester en deçà de cette limite. Manger un Big Mac et la moitié des apports journaliers recommandés en lipides est déjà couverte. Sauf que la quantité n'est pas tout. Avec un sandwich chicken teriyaki de la chaîne Subway, on est en dessous des 6 grammes. Et libre à chacun de choisir ensuite comment il couvrira les 49 grammes restants. Après les glucides et les lipides, voici le troisième élément constitutif de notre alimentation, et sans doute le moins connu, les acides aminés. C'est difficile à croire, mais le goût du tofu, qui va d'un arôme neutre à une saveur de noisette, et celui de la viande, prononcée et salée, ont la même base, de nombreux petits acides. Comme pour les glucides, ces différentes particules sont organisées en chaînes qui, au final, ont un autre goût et portent un autre nom. Ce sont les protéines. Dans l'intestin grêle, les enzymes de la digestion déconstruisent ces chaînes et la paroi intestinale se rue sur les précieuses particules. Les acides aminés sont au nombre de 20 et les possibilités de les combiner pour former des protéines sont infinies. Entre beaucoup d'autres choses, c'est sur cette base que nous élaborons notre ADN, c'est-à-dire notre patrimoine génétique, transmis aux nouvelles cellules fabriquées chaque jour. Et tous les autres êtres vivants, les animaux comme les végétaux, ont recours à ce procédé. Voilà pourquoi tout ce qui est comestible et provient de la nature contient des protéines. Se passer de viande sans souffrir de carence est cependant plus complexe qu'on le croit parfois. Les protéines présentes dans les végétaux ne sont pas les mêmes que dans les produits animaux. Et souvent, les plantes utilisent une quantité d'acides aminés si réduite qu'on qualifie leurs protéines d'incomplètes. Si nous voulons utiliser leurs acides aminés pour produire nos propres protéines, nous ne pouvons constituer la chaîne correspondante que jusqu'au moment où survient la première carence en acides aminés. Les protéines non achevées sont alors à nouveau détruites et les petits acides évacués dans notre urine ou recyclés autrement. Les haricots, par exemple, ne contiennent pas l'acide aminé méthionine, le riz et le blé, et par conséquent le seitan, n'ont pas de lysine. Et le maïs présente même une double carence. Il ne contient ni lysine, ni tryptophane. Mais n'allons pas trop vite en besogne. L'heure du triomphe des carnivores sur les phytophages n'a pas encore sonné. Les végétariens et les végétaliens doivent tout simplement miser sur des combinaisons intelligentes. Les haricots ne contiennent pas de méthionine, certes, mais ils ont de la lysine à revendre. Une tortilla de blé garnie de pâtes de haricots et d'une délicieuse farce au choix fournit donc tous les acides aminés dont nous avons besoin pour fabriquer des protéines. En mangeant des œufs et du fromage, on peut aussi compenser des protéines incomplètes. D'ailleurs, dans de nombreux pays, les êtres humains se nourrissent intuitivement de plats qui complètent les pièces du puzzle. Du riz avec des haricots, des pâtes au fromage, du pain avec de l'houmos ou des toasts au beurre de cacahuète. En théorie, il n'est même pas nécessaire d'assurer ces combinaisons au sein d'un seul repas. Veiller à un équilibre quotidien suffit. Et la nécessité de combiner peut même être une source d'inspiration utile quand on ne sait pas quoi cuisiner. En outre, certaines plantes contiennent tous les acides aminés importants en quantité suffisante. C'est le cas par exemple du soja, du quinoa, de l'amarante, de la spiruline, du blé noir, sarrasin, et des graines de chia. Si on appelle parfois le tofu « viande des champs », c'est exactement pour ses qualités protéiques qui font de lui un aliment précieux. Avec un bémol cependant, puisque de plus en plus de gens y sont allergiques. Chapitre 5. Allergie, sensibilité et intolérance. L'une des hypothèses sur l'apparition des allergies a pour point de départ la phase digestive qui se déroule dans l'intestin grêle. Si nous ne parvenons pas à fragmenter une protéine en différents acides aminés, de minuscules morceaux peuvent subsister. Normalement, ils ne sont tout simplement pas assimilés par le sang. Mais il faut se méfier des os qui dorment, en l'occurrence de la lymphe. Une fois enfermée dans une gouttelette de graisse, de telles particules pourraient arriver chez elle et être alors repérées par des cellules immunitaires attentives. Au milieu du liquide lymphatique, celles-ci détectent par exemple une minuscule particule de cacahuète. Que font-elles? Évidemment, elles attaquent cet intrus. La prochaine fois qu'elles le repèrent, elles sont mieux préparées et peuvent déployer plus de moyens pour l'attaquer. Arrive alors un moment où il suffit même de croquer une cacahuète pour que les cellules immunitaires de la bouche, bien informées, dégainent leur pistolet mitrailleur. La conséquence? Des réactions allergiques de plus en plus prononcées, avec par exemple un œdème du visage et de la langue. Cette explication correspond bien aux allergies principalement déclenchées par des aliments à la fois gras et riches en protéines, comme le lait, les œufs et, en tête de liste, les cacahuètes. Quant à savoir pourquoi presque personne ne fait d'allergie aux lardons, la réponse est simple. Nous sommes nous-mêmes faits de chair et n'avons généralement aucun problème à la digérer. Maladie cœliaque et sensibilité au gluten. Le développement d'allergies en lien avec l'intestin grêle ne peut pas s'expliquer que par les graisses. Des allergènes comme les crustacés, le pollen ou le gluten sont loin d'être des poids lourds côté lipides, et les gens qui ont une alimentation riche en graisses n'ont pas plus d'allergies que les autres. Pour expliquer l'apparition des allergies, une autre hypothèse a été avancée, comme la perméabilité de la paroi intestinale peut parfois brièvement augmenter, des résidus de nourriture profitent de l'opportunité et se ferait alors un passage dans les tissus intestinaux et le sang. Les scientifiques étudient surtout cette possibilité en relation avec le gluten, un amalgame de protéines issues de céréales telles que le blé. Les céréales n'aiment pas vraiment qu'on les mange. Une plante, quelle qu'elle soit, a pour ambition de se reproduire, et pas de voir ses descendants disparaître entre nos dents. Au lieu de nous faire une scène, les végétaux n'hésitent pas à empoisonner, à petite dose, leurs graines. Mais tout cela est bien moins dramatique que ça n'en a l'air à première vue. D'un côté comme de l'autre, quelques grains de blé dévorés sont encore du domaine de l'acceptable. Les êtres humains peuvent ainsi prospérer, et les végétaux aussi. Seulement, plus une plante se sent en danger, plus elle injecte de substances nocives dans ses graines. Et si le blé est ainsi rongé par l'angoisse, c'est parce que ces graines ne disposent que de peu de temps pour pousser et se reproduire. Il n'est donc pas question de louper le coche. Chez les insectes, le gluten bloque une enzyme digestive importante, si bien qu'une sauterelle qui grignote trop de plants de blé se retrouve avec des crampes d'estomac. Elle laisse donc en paix le reste du champ et tout le monde est content. Dans l'intestin humain, le gluten peut passer par les cellules intestinales, parfois sans avoir été digéré, puis desserrer de là les liens entre les différentes cellules. Des protéines de blé se retrouvent alors dans des zones où elles n'ont rien à faire, et c'est tout à fait le genre de phénomène qui met notre système immunitaire en colère. Une personne sur 100 est concernée par l'intolérance au gluten, dite maladie cœliaque. Mais le nombre de personnes qui présentent une sensibilité au gluten est autrement plus élevé. Dans le cas de la maladie cœliaque, la consommation de blé peut entraîner d'importantes inflammations, détruire les villosités intestinales et affaiblir le système nerveux. Les personnes touchées souffrent de maux de ventre, de diarrhée, présentent dès l'enfance un retard de croissance ou sont très pâles en hiver. Le hic avec cette maladie, c'est qu'elle peut être plus ou moins prononcée selon les cas. Si les inflammations sont modérées, le patient peut ne rien remarquer pendant plusieurs années. Il a parfois des maux de ventre ou souffre peut-être d'une anémie qui sera découverte par hasard chez le médecin. Actuellement, le meilleur traitement de la maladie cœliaque est de supprimer complètement le blé de l'alimentation. Dans le cas d'une sensibilité au gluten, on peut manger du blé sans dommage trop important pour l'intestin. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Rappelons-nous l'histoire de la sauterelle. Souvent, ce n'est qu'après avoir suivi un régime sans gluten pendant une ou deux semaines que les personnes concernées remarquent une amélioration et, de là, peuvent identifier le problème. Elles ont soudain moins de troubles digestifs ou de ballonnements, moins de maux de tête ou de douleurs articulaires. Certaines voient leur concentration s'améliorer ou se sentent moins souvent fatiguées ou démotivées. La sensibilité au gluten est un champ de recherche assez récent. À l'heure actuelle, la méthode de diagnostic peut être résumée grossièrement comme suit. Les symptômes s'amenuisent au cours d'un régime sans gluten, et ce, bien que le test à la maladie cœliaque soit négatif. Il n'y a ni inflammation, ni destruction des villosités intestinales, mais visiblement, le système immunitaire a tendance à s'affoler quand on lui sert trop souvent du pain blanc. La perméabilité de l'intestin peut aussi n'augmenter que sur une période circonscrite. Par exemple, après une prise d'antibiotiques, suite à une consommation excessive d'alcool ou en cas de stress. Quand la sensibilité au gluten n'est avérée que dans ce type de situation, le patient peut même présenter les signes d'une véritable intolérance. La meilleure chose à faire dans ce cas, c'est de supprimer le gluten pendant un temps. Le diagnostic définitif s'appuie sur un examen approfondi et sur la présence de certaines molécules au niveau des globules. En dehors des groupes sanguins bien connus, A, B, AB ou O, il existe encore de nombreuses autres classifications génétiques, comme le génotypage HLA-DQ. Si vous n'appartenez ni au groupe HLA-DQ2, ni au groupe HLA-DQ1,